Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est le député de la première circonscription, Nicolas Metzorf. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation et nous allons vous demander où nous en sommes, quelles sont les prochaines étapes et si vous avez l'impression ou non que les choses avancent. Alors tout d'abord, la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, arrive en Calédonie lundi pour une visite de 5 jours. Un déplacement qui était prévu la semaine dernière mais qui avait été reporté. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite? Des réponses politiques, des réponses économiques ou est-ce que c'est simplement une prise de contact de la part de la ministre?
Les deux, mon capitaine, à la fois de la politique et de l'économie. De la politique, pourquoi? Parce que on est dans un no man's land juridique toujours, depuis que on a négocié l'accord de Bougival, parce qu'il n'est toujours pas mis en œuvre par une réforme de la Constitution. Donc il faut qu'on avance sur le sujet institutionnel. Et la question économique, bien évidemment, parce que comme on met du temps sur l'institutionnel, l'économie en périt un peu, en périt même beaucoup. On a besoin aujourd'hui de 50 milliards de plus de francs CFP pour combler le déficit des finances publiques du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On a besoin aussi de 10 milliards pour l'année 2026 pour les retraites CAFAT. Donc on voit qu'on a un besoin en financement qui est assez élevé pour sauver nos politiques publiques, en plus du redémarrage de grands travaux nécessaires au travail de nos entreprises. Donc moi, ce que j'attends du voyage de la ministre, pour répondre concrètement à votre question, c'est pas de tourner des popotes, pas une énième visite à la rencontre de tout ce qui fait la Nouvelle-Calédonie. Non, on rentre tout de suite dans le concret, on rentre tout de suite dans le dur, on est au travail.
Mais alors, elle est forcément peu imprégnée du dossier calédonien. Ça fait quelques semaines qu'elle a été nommée ministre des Outre-mer, notamment par rapport à son prédécesseur Manuel Valls, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas un handicap? Est-ce qu'elle va arriver à appréhender le sujet qui est quand même très complexe et apporter des solutions, des réponses dans tous les domaines dans lesquels on l'attend?
Alors, c'est difficile pour moi de lire dans une boule de cristal.
Vous la connaissez un petit peu, vous.
Sur comment sera Naïma en tant que ministre. Moi, je la connais en tant que députée et notamment vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est une femme de droite, bien à droite, avec un fort caractère, très organisée, très déterminée. Comment ça va rendre en tant que ministre? Je ne sais pas. Donc, je dirais que j'ai un a priori très positif sur elle, parce qu'on se connaît et je sais ses valeurs et ses convictions. Après, il y a toujours une différence entre le moment où on est parlementaire et le moment où on devient ministre. Donc, est-ce que la députée Naïma, qui était mon amie à l'Assemblée nationale, sera la même que Madame la ministre ici à Nouméa? Je ne sais pas.
Bon, on le saura bientôt puisqu'elle arrive lundi. Alors, elle avait reporté son déplacement à la toute dernière minute en raison de l'examen du budget. C'est le Premier ministre qui lui avait demandé. Vous-même, vous avez donc été absent pendant ces derniers jours à l'Assemblée nationale. On en est où dans le budget, notamment en ce qui concerne la défiscalisation outre-mer? Ça n'a pas encore été adopté.
Non, voilà. On est toujours à la fois sur la partie 1 du budget, c'est-à-dire tout ce qui concerne les recettes et le budget de la sécurité sociale, parce qu'en métropole, contrairement à la Nouvelle-Calédonie, ce sont deux budgets distincts, le budget de l'ensemble de la nation et la sécurité sociale. Sur le budget de la nation, on est sur la partie, comme je le disais, des recettes. Et on n'a pas encore entamé les discussions dans le dur sur la défiscalisation, mais j'ai bon espoir que le texte soit voté, parce que tous les groupes, qu'ils soient d'opposition ou de la majorité présidentielle, défendent le fait de ne pas supprimer la défiscalisation pour les Outre-mer. C'est d'ailleurs l'article de suppression de la défiscalisation a été rejeté en commission des finances, unanimement.
Donc vous êtes plutôt optimiste.
Ça devrait suivre en Assemblée. Je tiens à dire que je suis absent de l'Assemblée nationale quand même, permettez-moi de le dire, parce que je suis venu accueillir la ministre qui a finalement décalé son voyage une fois que j'étais arrivé en Nouvelle-Calédonie. Et maintenant qu'elle revient dans 5 jours, voilà, je ne vais pas faire l'aller-retour, je l'attends.
Mais vous avez siégé ces derniers jours, ces dernières semaines. On dit que c'est du jamais vu la façon dont est élaboré ce budget 2026 et qu'il y a des surprises tous les jours à l'Assemblée nationale. Vous l'avez vécu comme ça, vous trouvez que c'est...
Oui,
c'est inhabituel.
C'est du jamais vu. Pourquoi? Parce que soit il y a une majorité absolue et donc le budget du gouvernement est voté à quelques amendements de députés bien installés qui passent, mais généralement c'est plutôt le budget du gouvernement qui passe sans grande modification à l'Assemblée et au Sénat. soit il n'y a pas de majorité et donc on utilise le 49-3 parce que toutes les oppositions votent contre le budget. Sauf que là, pour la première fois, il n'y a pas de majorité et on n'utilise pas le 49-3. Alors tout le monde y va de ces négociations. Alors ça donne un côté chaotique à l'affaire, mais je trouve aussi que pour le coup, c'est le vrai débat parlementaire. C'est-à-dire que là, il faut trouver des compromis entre la droite, la gauche, les centristes, l'extrême droite, l'extrême gauche. Et donc on voit si finalement la France, et c'est ça qui est intéressant, commence à assimiler la culture du compromis dans son exercice politique, ou alors si elle reste toujours sur l'ancien schéma qui est le système majoritaire. Donc je trouve que c'est quand même intéressant à suivre de voir comment la France évolue sur le plan du travail institutionnel.
Et on verra, si finalement ce budget pourrait être adopté ou s'il faudra passer par ordonnance ou pour le faire passer.
Oui, je pense que tout le monde souhaite qu'il ne passe pas par ordonnance. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, ordonnance? Ça veut dire qu'il y a un délai, en fait, pour adopter le budget. Et si on dépasse ce délai, le gouvernement de la République exécute le budget, mais le budget déposé à l'Assemblée nationale, pas le budget qui sort de l'Assemblée nationale. Donc les parlementaires souhaitent que les ordonnances ne soient pas mises en œuvre. Or, si on dépasse les délais, ça sera les ordonnances. Et ce n'est pas quelque chose qu'il faut écarter.
Alors auparavant, il y avait eu, et là ça nous intéresse directement, égoïstement, l'adoption de la loi organique qui reporte les élections provinciales au plus tard, au 28 juin 2026. Là aussi, c'était un vrai travail parlementaire, un vrai combat parlementaire. Vous êtes soulagé qu'elle ait été adoptée ?
Oui, ça a été un gros combat. On ne nous aura rien épargné dans cette séquence. Parce qu'en fait, l'UCFLNKS s'est basé sur l'extrême gauche et sur le Rassemblement national pour empêcher le report de ces élections provinciales, pour pouvoir les tenir rapidement avec le corps électoral gelé. Et donc, si ça a été facile au Sénat, parce qu'il y a une grande majorité de droite, à l'Assemblée nationale, ça a été un peu plus la bataille. Et donc, il a fallu, là aussi, trouver des subterfuges, trouver des majorités, négocier avec des groupes politiques dont on n'a pas l'habitude de négocier avec, pour essayer de trouver des voies de passage. On les a trouvées. Elles ont été étroites, mais on a réussi.
Justement, ça a été étroit. Le score a quand même été, le résultat a été serré quand même à l'Assemblée nationale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de consensus sur le dossier calédonien dans la classe politique métropolitaine. Pendant longtemps, on avait l'impression qu'il fallait que la Calédonie... Enfin, tout le monde était d'accord sur ce qui était décidé en Nouvelle-Calédonie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de consensus. Je dirais juste que le Parlement est traumatisé depuis le 13 mai dernier parce qu'il ne maîtrise pas les subtilités. On ne peut pas leur en vouloir. Hein. La Calédonie est tellement particulière dans son fonctionnement au sein de la République française. On est un peu un ovni. On est très loin. Et donc, si vous voulez, eux, ils se disent, est-ce que mon vote peut entraîner de nouvelles émeutes ou non? Et donc, ils sont très prudents pour le mieux, voire très craintifs pour le pire. Et donc, il faut faire beaucoup de pédagogie. Donc, c'est plutôt ça. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de consensus, parce que tout le monde voudrait que la Nouvelle-Calédonie, un, reste française, peut-être à part LFI, et deux, une Calédonie où tout se passe bien. Mais quand on leur demande de trancher entre un sujet, on va dire, qui fait consensus au sein des signataires de Bougival et le FLNKS, ils ont un peu du mal à trancher.
Ils n'ont pas pris conscience, et on peut le comprendre, de la division du camp indépendantiste. C'est-à-dire qu'ils ne font pas encore la mesure entre l'UNI et l'UPM d'un côté et l'UCFLNKS de l'autre. Et on a l'impression que le FLNKS reste pour eux, enfin, globalement, l'interlocuteur incontournable. Quoi.
C'est normal, parce que les deux parlementaires indépendantistes qui sont à Paris sont deux parlementaires de la tendance FLNKS-UC. Et ce n'est pas deux parlementaires de l'UNI Palika. Donc moi, je renvoie aussi aux grands électeurs pour les sénatoriales et aux Calédoniens pour la seconde circonscription de M. Tchibaou, de dire qu'entre des indépendantistes radicaux et des indépendantistes de l'UNI, ça fait aussi bouger les choses d'une façon ou d'une autre à l'Assemblée nationale. Si j'avais eu avec moi à l'Assemblée nationale un député indépendantiste de l'UNI Palika, il aurait très certainement pas dit les mêmes choses que M. Tchibaou et très certainement que la majorité aurait été plus large. Donc il y a aussi le reflet du choix de la démocratie calédonienne quelque part.
Alors il y a aussi eu des questions lors du passage en commission mixte paritaire de la proposition de loi. L'intitulé a été changé. C'est-à-dire que désormais, le report du scrutin est justifié pour permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire qu'on ne fait plus allusion à Bougival. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Bougival est oublié ? Est-ce qu'on recherche un nouvel accord ? Comment faut l'interpréter ?
Non, ça, c'est des éléments de langage du FLNKS. Il ne faut pas tomber dans le piège. C'est le titre de la loi. Un titre de loi, c'est un titre. Ce n'est pas un article, donc ce n'est pas engageant. On a fait cette concession aux socialistes, parce que je rappelle que comme le RN, le Rassemblement national de Marine Le Pen, ne nous apporte pas ses voix, il a fallu aller chercher une majorité sur la gauche, parce qu'après, à droite, il n'y avait plus personne. Donc, il a fallu aller voir les socialistes, et les socialistes ont dit « Oui, mais nous, on est un peu embêtés parce que le FLNKS n'aime pas Bougival, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas modifier le titre de manière à apaiser les choses ?» Alors moi, j'ai dit très bien. Ce qui compte, c'est que les élections soient reportées. Le titre, vous savez quoi, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a changé le titre.
Alors, l'une des motivations pour le report, hein, vous le disiez, c'est d'éviter de voter avec un corps électoral gelé si les élections avaient eu lieu fin novembre. En juin 2026, ou peut-être avant, puisque c'est la date limite, on est assuré que ce corps électoral sera rouvert. On en est où ? Parce que vous le disiez, la métropole, enfin la représentation nationale est traumatisée par la modification du corps électoral.
On est assuré de rien. Pour ouvrir le corps électoral, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller au bout de l'accord de Bougival. Puisque dans l'accord de Bougival, c'est 15 ans glissants pour les prochaines provinciales, puis ensuite 10 ans pour toutes les autres qui suivent. Si l'accord de Bougival ne passe pas, on va se retrouver dans la même situation que l'on vient de connaître à l'Assemblée nationale avec la question des élections qui se tiennent avec le corps électoral gelé. Donc moi, je vais continuer à me battre. Je ne vais pas changer d'avis parce que Bougival ne passe pas. Moi, je suis un ardent défenseur du dégel du corps électoral. Pas parce que ça rapporte des voix aux loyalistes, pas parce que j'ai que des amis exclus ou je ne sais quoi. Parce que je suis quelqu'un qui considère fondamentalement que mon pays doit être un pays qui soit démocratique, où les gens qui travaillent et vivent en Nouvelle-Calédonie doivent voter à des élections locales. Voilà, c'est un principe politique pour moi qui est profond. Donc il va falloir se battre si jamais Bougival ne passe pas pour que le corps électoral soit ouvert quand même. Alors il y a des recours qui sont possibles, Cour européenne des droits de l'homme, on peut repartir au Conseil d'État, il y a tout un tas de possibilités juridiques qui s'offrent à nous, mais c'est toujours le combat politique qui a le plus d'importance.
Alors, pour faire avancer Bougival ou pour le faire progresser, puisque c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la suite du processus dans la mesure où le nouveau FLNKS, on va l'appeler comme ça, a dit clairement qu'il refusait de reprendre les discussions autour de Bougival ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on peut le ramener ? On peut pas décider pour lui de le mettre autour de la table s'il ne veut pas venir.
Non, mais moi, je pense que les choses, elles sont très claires. Le FLNKS ne peut pas prendre en otage toute la Nouvelle-Calédonie. Il y a aujourd'hui, dans la classe politique, hein, je ne parle pas des Calédoniens, mais la classe politique, c'est-à-dire tous les groupes politiques composés au Congrès soutiennent Bougival, sauf le FLNKS. Donc le FLNKS ne peut pas bloquer à lui seul tout le processus. Donc, dans une démarche de consensus, de recherche d'apaisement, tout le monde est d'accord pour tendre la main une dernière fois au FLNKS. C'est normal. Mais si le FLNKS ne prend pas cette main qui est tendue, si elle tapote cette main, moi, je dis une chose, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. On ne pourra pas rester ad vitam aeternam les otages du FLNKS. Donc moi, je serais pour que quand même, on organise le congrès de Versailles. Voilà, pour moi, les choses sont d'une évidence folle sur ce sujet-là. Après, vous me dites, qu'est-ce que vous pouvez concéder au FLNKS ? Écoutez, moi...
En admettant qu'il tapote dans la main et qu'il dise « Ok, on se met autour d'une table », c'est quoi ? C'est un Bougival un petit peu modifié, un peu amélioré, un
Mais
peu transformé ?
Il va falloir que les modifications elles soient des deux côtés, parce que moi, je veux bien donner un peu, mais il faut m'en donner à moi aussi. Enfin, au nom des dépendantistes, vous m'avez compris. Nous, on a été très loin. Enfin, je veux bien rechercher l'apaisement, le consensus et une solution pour la Nouvelle-Calédonie. On en a tous besoin. Mais pardon, mais nous, on est quand même un peu dénudés, là. C'est-à-dire qu'on a lâché le mot « État », on devient un État, on a lâché le concept de double nationalité en contrepartie de l'ouverture du corps électoral, on a une loi fondamentale, on a des transferts de compétences régaliennes qui restent possibles, même avec un système au Congrès qui est très sophistiqué. Donc, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions de symboles? Est-ce qu'il y a des questions de reconnaissance mutuelle historique? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veut le FLNKS, parce que, vous savez, c'est ça la difficulté du FLNKS aujourd'hui. Et moi, j'en appelle vraiment aux... Alors, s'il y a des électeurs du FLNKS ou des militants qui écoutent RRB, je leur adresse un message. Dites à vos responsables de nous dire ce qu'ils veulent, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent. Moi, ça fait 3 ans que je fais des réunions avec le FLNKS. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Ils nous parlent de décolonisation. Bon, OK, mais c'est quoi? Enfin, est-ce que la Calédonie est encore colonisée? Je ne crois pas. Ils nous parlent d'émancipation. En fait, ils parlent de termes très sophistiqués, très philosophiques, mais il n'y a pas de demande concrète. Il n'y a pas « moi, je veux 3 provinces ou 4 provinces, je veux tant de sièges ». Il n'y a pas « je veux telle compétence à telle... » Voilà, on ne sait pas. On ne connaît pas le projet du FLNKS.
Même avec votre collègue Emmanuel Tchibaou, vous n'arrivez pas à discuter, à lui demander ce qu'il veut et comment on peut faire avancer les choses?
Emmanuel, il a essayé à un moment donné, mais aujourd'hui, il n'est plus mandaté pour les discussions. Donc, je crois que dès qu'il y a quelqu'un au FLNKS qui essaye d'apporter un peu de structuration et de concret dans les discussions, bon, ben voilà, il se fait sortir. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que Emmanuel n'est plus dans les discussions sur l'avenir institutionnel. Et donc, on se retrouve avec les nouveaux du nouveau FLNKS. Mais là, il n'y a pas de proposition concrète. Et ça part dans tous les sens. Donc, on ne peut pas discuter avec des gens qui ne proposent rien. Et on ne va pas accepter, nous, une indépendance en 2026 ou en 2027 avec un accord de Kanaki. Enfin, il y a un moment donné, nous, on est non-indépendantistes et puis on a gagné. Donc, voilà. Donc si le FLNKS revient à la table des négociations, il faudra qu'il apprenne à formaliser et à formuler ses demandes.
Est-ce que vous pensez que Naïma Moutchou peut arriver à les ramener autour de la table? On sait que c'est pour ses prédécesseurs, ça a été difficile. Hein. Il y a Manuel Valls qui est vaguement arrivé, mais on voit comment ça s'est terminé. C'est un peu mission impossible, non, qu'elle lui a confié.
Je pense que ça va être difficile. Moi, ce que je veux que la ministre retienne surtout, c'est que on n'a pas de temps. Donc, il faut tendre la main, tout en sachant qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Voilà. Il faut pas ne pas tendre la main. Ça ne serait pas responsable de notre part. Mais il ne faut pas non plus courir après trop longtemps. Parce qu'ici, il y a une situation qui se dégrade. On vient de passer une semaine avec des gosses qui mangeaient dehors parce que les cantines n'étaient pas payées. Voilà.
Deux cas de figure, vous avez dit, on leur tend la main, ils tapotent, on a vu ce que ça donnait. Et s'ils la refusent? Alors là, on les a déjà entendus. Hein, ils parlent à nouveau de passage en force, des mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Ils appellent à la mobilisation, en disant mobilisation pacifique. Est-ce que vous craignez aujourd'hui qu'il puisse y avoir de nouveaux débordements, de nouvelles violences, on va dire, comme il y a eu en 2024? Ou est-ce que vous pensez que pour l'instant, c'est uniquement de la provocation de leur part?
Moi, je
sais toujours... que c'est compliqué de parler en leur nom, mais donc...
Alors, il y a plusieurs réponses à votre question. La première chose, c'est que aucune menace de violence ne doit guider l'action politique d'une démocratie. Voilà. C'est parce que sinon, on n'est plus une démocratie. Si on cède à la violence et à la menace de la violence, on est en dictature. On est en dictature. Et moi, je répète, je ne veux pas que la Nouvelle-Calédonie devienne une dictature. Je veux que ça reste un pays démocratique. Donc, moi, je pense que quand on nous menace, il faut accélérer le mouvement. C'est-à-dire que plus on menace, plus en fait on avance sans ceux qui nous menacent. Voilà. Je suis pour ce rapport de force-là. Parce que sinon, si on cède, finalement, on donne des mauvaises habitudes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui atteindre des sommets de destruction comme on a connu le 13 mai dernier? Je dirais 3 choses. La première, c'est qu'il n'y a plus que 6 escadrons de gendarmes mobiles en Nouvelle-Calédonie. Il y en a 20. Donc l'État a fait ce qu'il fallait, le ministère de l'Intérieur a fait ce qu'il fallait, Bruno Retailleau, M. Nunes maintenant, font le travail pour qu'en Nouvelle-Calédonie, il y ait des forces de l'ordre partout, et je crois que les Calédoniens le constatent. Point 2, par rapport au 13 mai dernier, ce n'est pas tout le mouvement indépendantiste qui est vent debout contre ce que fait la classe politique calédonienne ou ce que fait l'État. Aujourd'hui, il y a une division très claire au sein du monde indépendantiste entre le FLNKS qui est opposé à l'accord de Bougival et l'UNI qui fait campagne pour l'accord de Bougival. L'UNI fait campagne, l'UNI défend ardemment l'accord de Bougival. Ce n'est pas la même chose. Alors que l'UNI était opposé, même s'il était contre les violences, était opposé au dégel du 13 mai. Et la troisième chose, et ça concerne les Calédoniens, je crois que tout le monde a compris que les violences entraînent la pauvreté et la destruction de nos politiques publiques et de nos infrastructures publiques et de nos familles en Nouvelle-Calédonie. Plus personne n'a intérêt à ce que la violence reprenne en Nouvelle-Calédonie. Donc ces trois éléments me font dire que on n'est pas clairement dans l'environnement qu'on a connu l'année dernière.
Alors reste que les choses avancent très lentement. On va parler quand même du projet de loi constitutionnelle. Dans un calendrier idéal, il devait être examiné en décembre par le Congrès de Versailles. On a compris que ce ne serait pas le cas. Il a été présenté quand même en Conseil des ministres. Il a été inscrit en janvier, puis retiré. On en est où ? Il va être soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat ? Ou est-ce que le gouvernement attend qu'ici les discussions progressent ?
Alors, deux solutions. Soit, ici les discussions progressent, le FLNKS revient à la table des négociations, on négocie, le PJLC, donc le projet de loi constitutionnelle, est modifié et donc ça prend du temps. Et donc on attend un peu avant de le mettre dans les tuyaux définitivement. Soit le FLNKS ne vient pas. Et là, notre position, nous, elle est claire au niveau des loyalistes, c'est on met le PJLC dans les tuyaux. On met le PJLC dans les tuyaux. C'est ce que je disais juste avant. On ne va pas attendre 150 ans parce que vous êtes à l'image des Calédoniens, Madame Noire, c'est que vous nous dites on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, je pense qu'il faut qu'on arrête de se dire...
Le sentiment général, effectivement. Enfin, vous le ressentez bien, les gens vous le disent.
Je suis là, je l'entends. Et vous savez quoi ? Même moi, je le ressens. Il y a un moment donné, il faut qu'on avance. Donc... un dernier tour, j'insiste bien sur le dernier tour, hein. Un dernier tour pour tenter de remettre tout le monde autour de la table. Si c'est une fin de non-recevoir, il faudra avancer quoi qu'il arrive. Et même s'il y a des menaces de violence, il faut avancer.
Il y aura une date ultime à laquelle on leur dira « bon, c'est bon, maintenant on y va » ou
ah bah,
on n'attendra pas de l'année
que,
on attend...
Je pense sincèrement que le voyage de la ministre doit servir à ça. La ministre repart à Paris... en informant Sébastien Lecornu, Premier ministre, et Emmanuel Macron, Président de la République, si oui ou non, il y a une possibilité de continuer les discussions avec le FLNKS, ou si c'est foutu et qu'il faut avancer.
Donc, voyager, cette visite est quand même assez décisive.
Pour moi, elle est décisive.
Alors, on le disait, hein, vous faisiez allusion, le processus de Bougival a pris du retard. Cela a des conséquences aussi sur la reprise économique, évidemment, sur la relance. On dit déjà que 2026 sera pire que 2025, C'est votre sentiment, c'est votre opinion ?
Je pense que...
Sans vouloir casser le moral de tout le monde.
Ouais, non, pire, je ne sais pas, mais ça sera toujours aussi difficile parce que, en fait, les conséquences économiques sont toujours sur du long terme. Hein, c'est la destruction économique prend du temps parce que les entreprises sont résilientes d'abord, elles tentent de tenir le coup, ensuite elles sont aidées, mais plus le temps passe, plus c'est difficile de survivre s'il n'y a pas de reconstruction politique de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, tant qu'on est dans ce qu'on disait auparavant, dans ce no man's land, dans cette incertitude, la situation de nos entreprises va continuer de se dégrader. Et c'est là où nous, on a un rôle particulier, la classe politique calédonienne, et en particulier les parlementaires, c'est d'informer suffisamment l'État pour dire s'il n'y a pas de reconstruction institutionnelle, il va falloir que l'État débourse de l'argent pour maintenir à flot le niveau de vie des Calédoniens, qui baisse drastiquement. Mais là où l'argument, et ça rejoint le sujet d'auparavant, que nous utilisons auprès de la classe politique parisienne fonctionne, c'est-à-dire on leur dit, si le FLNKS ne revient pas autour de la table, il faut que vous avanciez quand même. Pourquoi ? Parce que ça va vous coûter extrêmement cher si vous ne le faites pas. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité parce que si on n'avance pas institutionnellement, la situation économique se dégrade, la situation sociale se dégrade, on va être de plus en plus dépendant de l'État et c'est plus 1 milliard d'euros qu'il va falloir nous prêter, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5.
Oui, justement, on sent déjà une certaine irritation de tous les élus maintenant. Au début, c'était sur certains bancs de l'hémicycle du boulevard Vauban. Maintenant, on sent que tous les élus sont très irrités par l'attitude de l'État. Le fait qu'il pose des conditions avant chaque aide, le fait que le PGE ne soit pas transformé en subvention alors que c'est une demande récurrente. Vous partagez cette irritation, cette impatience à l'égard de l'État où vous êtes mieux placé pour pouvoir leur passer les messages ?
Moi, je partage l'irritation. Enfin, moi, je suis le go-between dans cette affaire. C'est-à-dire que je parle aux élus calédoniens des infos que j'ai de Bercy. Et puis, en même temps, je parle à Bercy de ce que ressentent les élus calédoniens. Mais ce qu'on peut dire, c'est quoi ? C'est que l'État ne peut pas nous durcir les conditions d'octroi des aides alors qu'il temporise sur l'institutionnel. Soit l'État fait le taf, fait le job sur l'institutionnel et avance à, avec ou sans le FLNKS, mais trouve une solution, tape du poing sur la table en disant le cinéma, c'est fini, ça fait 5 ans qu'on discute, les cocos, on a fait tout ce qui était possible en termes de statut juridique possible, on en a trouvé un, donc on avance sur celui-là, point barre. Et puis bon, ils auraient raison de nous dire, bon, ben, ça va redémarrer, donc tranquille sur la solidarité nationale. Mais là, ce n'est pas ce qu'ils font. L'État temporise énormément, l'Assemblée nationale hésite, on voit qu'on se doit se battre pour trouver des majorités. Ils ont tous toujours peur que le FNKS retourne aux violences. Et en même temps, ils durcissent les aides parce qu'ils se disent, ben, on ne peut pas donner autant. Oui, mais l'incertitude crée la baisse de niveau économique. Donc moi, je partage cet agacement qui est de dire il faut que l'État soit cohérent. Il faut qu'il soit cohérent. Voilà. Soit il avance vite et puis on peut entendre qu'il va falloir qu'on se débrouille tout seul parce que derrière, on aura reconstruit tout ce qu'on aura à reconstruire. Soit il faut qu'il envoie des milliards d'euros, pas des prêts, mais des subventions parce qu'on commence à étouffer là sous les intérêts et que ça nous permettra le temps de prendre le temps des discussions.
Et là aussi, Naïm Mavoutchou aura des réponses à apporter, ça pourrait être de sa responsabilité d'apporter des réponses précises sur ces points-là.
Oui, alors moi ce que j'espère de Naïma Mouchou, et je sais qu'elle va écouter l'interview ou la lire, c'est qu'elle soit, et elle en est capable, elle ne soit pas dans la langue de bois. Voilà. Il faut qu'elle dise les choses. Je pense qu'on en est arrivé à un point en Nouvelle-Calédonie où ça ne sert à rien d'essayer de nous faire plaisir ou pas plaisir. Je crois qu'il faut qu'elle dise les choses. Nous, on va lui dire les choses aussi. On a besoin maintenant de décisions, de prise de décision. Moi, je voudrais qu'à la fin de ce séjour, une décision soit actée sur le calendrier de la mise en œuvre de Bougival. C'est ça que... Si Naïma Mouchou repart et qu'il n'y a pas d'annonce économique de soutien et qu'il n'y a pas d'annonce de calendrier de mise en œuvre de Bougival, sa venue sera un échec.
À sa décharge, la situation politique nationale est quand même aussi marquée par l'instabilité. Chez nous, c'est l'immobilisme, chez eux, c'est l'instabilité. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir des premières semaines de Sébastien Lecornu à Matignon et combien de temps est-ce qu'il va pouvoir s'y maintenir? Pour l'instant, il a l'air de... ça se passe plutôt bien. Tout le monde pensait qu'il tomberait avant, il est toujours là.
Oh, mais nous, on connaît bien Sébastien en Nouvelle-Calédonie. On sait qu'il est bon, il est très très bon. L'erreur... Le péché originel de cette affaire, c'est qu'il aurait dû être à la place de François Bayrou. François Bayrou s'est imposé auprès d'Emmanuel Macron, qui voulait déjà mettre Sébastien Lecornu, et on a perdu énormément de temps et on a gagné en instabilité. Mais on voit bien aujourd'hui qu'entre François Bayrou et Sébastien Lecornu, celui qui était plus à même de négocier des majorités à l'Assemblée nationale, c'est Sébastien Lecornu. Il y a une proximité générationnelle maintenant avec les députés qui fait que ça aide. Il y a une finesse dans l'équilibre à trouver entre moins d'impôts, plus d'impôts, baisse des dépenses, augmentation des dépenses sur la question des retraites. Donc Sébastien Lecornu est brillant dans l'exercice. Maintenant, est-ce qu'il n'arrive pas trop tard pour éviter la censure et la dissolution? Peut-être, l'avenir nous le dira. Ce qui est sûr, c'est que c'était le meilleur des candidats à mettre à ce poste-là si on veut éviter censure et dissolution. Si la censure arrive, c'est que François Bayrou aura eu une grande responsabilité dans le coup de coude qu'il aura mis à Emmanuel Macron pour être projeté Premier ministre.
Le chef de l'État lui-même est aujourd'hui très contesté jusque dans son propre camp. Certains demandent sa démission déjà, on sait que sa cote de popularité est très basse. Vous le vivez comment, vous qui êtes un député de la majorité présidentielle, en tout cas du groupe, du bloc présidentiel?
Bon, je le vis bien, enfin, je... vous savez, la politique c'est comme ça, hein. On sait très bien qu'un jour on est en haut et puis le lendemain on est en bas, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on ne se fait pas des plans sur la comète, hein. Personne ne se dit qu'il va rester toute la vie plébiscité par le peuple, hein. Ça n'existe pas. Donc on est très lucide, c'est un métier où il faut être quand même cynique et froid. Entre nous, je parle, hein, dans le monde politicien, pas avec les gens évidemment. Moi, ce que je peux dire sur le président de la République, parce qu'il y a une défiance aussi en Nouvelle-Calédonie sur le sujet, moi, je dis, ça ne sert à rien de crier avec les loups. Voilà. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron, c'est fini quelque part. Il ne peut pas se représenter. Donc, la Macronie va s'arrêter l'année prochaine, en 2027. On est quasiment en 2026 et ça va s'arrêter l'année prochaine. Donc, il n'a plus la main politiquement, déjà, point 1. Ce n'est pas lui qui fait le budget ou qui ne fait pas le budget aujourd'hui. Et 2, il n'a plus la main, même constitutionnellement, si, pardon, mais il n'a plus la main à l'Assemblée nationale. On voit bien que Gabriel Attal, mon chef de groupe à moi, s'est complètement désolidarisé du président de la République. Édouard Philippe, qui compose l'autre groupe de la majorité, lui aussi s'est désolidarisé. Et François Bayrou est parti. Donc on voit bien que les trois groupes de l'Assemblée nationale sont très indépendants d'Emmanuel Macron. Et c'est l'Assemblée nationale qui fait la politique aujourd'hui en France. C'est l'Assemblée nationale qui augmente ou baisse les impôts. C'est la politique nationale qui augmente ou baisse les dépenses. C'est l'Assemblée nationale qui décide s'il y a plus ou moins d'immigration. Finalement, le président de la République, il n'a plus trop de pouvoir que ça aujourd'hui, puisqu'il ne dirige plus ses groupes à l'Assemblée nationale, qui de toute façon ne sont pas majoritaires.
Mais il peut vous dissoudre.
Alors, il lui reste les outils. C'est pour ça que je me suis repris. Il lui reste les outils constitutionnels, la dissolution et la nomination du Premier ministre. Mais en dehors de ça, en termes de politique publique, sauf sur l'international, bien sûr, il n'a plus trop la main. Donc, c'est pour ça que, oui, ça baisse dans les sondages. Ben, c'est la vie.
C'est la vie. En cas de dissolution, il y aurait des législatives, bien sûr. Il y aura des provinciales avant juin, on en est pratiquement sûr, là, désormais, même s'il n'y a pas encore de promulgation, a priori. Mais il y a une certitude, il y aura des municipales les 15 et 22 juin. Alors là, sous une autre casquette, les loyalistes, puisque vous êtes président de Génération NC, les loyalistes ont déjà présenté plusieurs de leurs candidats. Est-ce que ce n'est pas un peu trop tôt? On le disait, on est dans une espèce de no man's land, on ne sait pas où on va. Vous préparez déjà les municipales de mars 2026?
Oui, je sais, vous m'aviez déjà posé cette question lorsque Génération avait fait son séminaire sur les municipales. Le problème, c'est que, en fait, il y a un immobilisme calédonien, mais pas national. Et le calendrier des municipales est un calendrier national. Les élections municipales auront lieu en mars, vous l'avez dit. Et mars, mine de rien, bon, ben, ça arrive. Hein. Et puis surtout que nous, on a nos grandes vacances entre décembre et février, donc ça va aller très vite. Donc il faut quand même qu'on s'organise. Enfin, moi, ça me dérangerait qu'on perde des mairies parce qu'on ne s'est pas organisé suffisamment en amont. Et je rappelais en début d'émission à quel point les municipales étaient importantes pour les grands électeurs qui nous représentent, qui nous envoient ensuite un sénateur au Sénat de la République. Donc, moi, je préfère être prêt pour gagner ces élections. C'est la décision qu'on a prise ensemble avec Sonia Baquès et Gilles Brial, qui sont mes deux collègues présidents des autres partis qui composent les loyalistes. On a défini des candidats pour l'agglomération déjà, qui sont Nina Julier pour le Mandor, Cynthia Jean pour Dimbéa, Antoine Romain pour Païta, et un candidat pour Bouraille, cette fois, qui est Livaï Roy, que tout le monde connaît, président de la Fort de Bouraille. Donc voilà, je pense qu'on fait notre travail tout simplement de responsable politique en se préparant pour ces élections de proximité qui sont fondamentales.
Alors bon, on parle beaucoup des divisions du camp indépendantiste, on en parlait tout à l'heure, et dans le camp des partisans de la France, au-delà des loyalistes, je parle, on sait qu'il y a quelques frictions. Ça va plus loin ou vous pensez que l'unité qui a été un peu votre moteur depuis 2019, et on l'a vu à Bougival également, est-ce que vous allez arriver à sauvegarder cette unité?
Oui. Pour l'instant, on est dans la salle à manger. Il y a un bon repas. Toute la famille est là. Ça s'engueule un peu. Mais personne n'est parti et personne ne part. Et personne ne veut partir. Voilà. On en est là. Et parce que c'est aussi le phénomène d'élection municipale. Ça s'y prête. Les élections municipales, c'est l'élection locale de proximité la plus pure. Voilà, c'est-à-dire que là, même au sein des partis politiques, des fois dans les communes, il y a plusieurs candidats. Donc, il faut qu'on gère cette étape de la meilleure façon qui soit. Moi, ma responsabilité en tant que président de parti non indépendantiste, membre des loyalistes et député, c'est de faire en sorte que cette échéance locale n'ait pas des conséquences sur le reste. Voilà. Et mon but à moi, ça sera que on arrive. Même s'il y a des divisions dans des communes, je pense au Mandor, je peux penser par exemple à Nouméa aussi, que derrière, on puisse rapidement reprendre les discussions sur les provinciales et les négociations sur l'institutionnel, parce que je ne veux pas que la famille non indépendantiste se divise, parce que nous n'avons plus le luxe et le confort de la division compte tenu du rapport de force démographique maintenant en Nouvelle-Calédonie. Vous savez, quand Jacques Lafleur a gagné au premier tour dans la première circonscription. Quand le RPCR dominait la scène politique locale avec 70% des résultats électoraux, on pouvait se permettre des divisions. parce que le gâteau était suffisamment gros. Suffisamment gros, non, mais ça faisait partie de la démocratie. Je sais que vous étiez
opposé. Non, mais on voit les conséquences aussi.
Voilà, hein. Voilà. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que là, on ne peut pas. C'est une question de survie politique. C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, il y a 50% de loyalistes en Nouvelle-Calédonie. Donc on ne peut pas se diviser sur les questions du pays institutionnel, constitutionnel, provincial. On ne peut pas. Et vraiment, c'est une conviction profonde. Hein. C'est pas, je ne vous fais pas le discours langue de bois, non, mais tout va bien. Non. Mais vraiment, je pense qu'on serait des fous furieux à casser les relations qu'on a pour des élections locales. Mais en tout cas, ce n'est pas le chemin que ça prend. Aujourd'hui, si je peux rassurer les auditeurs d'RRB, c'est que malgré les petites tensions qu'on connaît à l'échelon local, la relation entre les états-majors est bonne.
Voilà. Bien, on retiendra que la visite de Naïm Amoutchou est pour vous décisive. On aura peut-être l'occasion d'en parler après, mais vous repartirez à Paris après.
Ah, moi, je repars avec elle. En fait, je n'aurais jamais dû venir. je ne sais pas ce que je fais là. Non, si, bien sûr, ça me fait plaisir d'être là et ça me permet de revoir un peu la famille, les amis et puis les électeurs. Mais
vous êtes venu l'accueillir à l'époque.
Je suis venu pour être avec elle. Donc, elle a décalé d'une semaine. Bon, ben voilà, j'ai une semaine où j'en profite pour venir voir RRB, toute votre équipe que je salue bien bas pour tout le travail qu'ils effectuent tout au long de l'année.
Merci, monsieur le député Nicolas Merzer, d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence, magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45, et que vous pourrez retrouver dans quelques instants en audio et vidéo sur le site internet de Radio Rythme Bleu. Passez une excellente après-midi. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est à 13h.